n'a pas de public, on n'est pas en train de jouer, on est en train de répéter.
Voilà.
Et de savoir si je peux répéter ou non, j'ai l'impression que ça, ça me concerne.
Oui.
Et qu'on s'était non. parlé...
À partir du moment où on sait que la représentation n'aura pas lieu, on ne va pas continuer à répéter.
Un spectacle fauché en plein vol par l'épidémie, il y en eut tant et tant en France, salles fermées, théâtres désertés. Je vous rappelle l'histoire, la télé publique s'était dotée d'un outil numérique, Culture Box, pour promouvoir et diffuser du spectacle vivant sur tout le territoire. L'épidémie fut l'occasion d'en faire une chaîne de télévision. Et puis le président de la République décida que ça allait durer. Sur le canal 14, on aurait France 4 désormais dans la journée et les représentations de Culture Box dans la soirée, plus une plateforme sur Internet où l'on pioche à l'envi mille et un contenus du plus vivant au plus patrimonial. Voilà qui soulève des enjeux passionnants car Covid or not Covid, nos pratiques culturelles sont en pleine mutation. De plus en plus souvent à travers un écran. Comment repenser dès lors le rapport au public? Comment réinventer la mise en scène lorsqu'il n'y a plus de scène, précisément? La télévision se pose la question depuis sa naissance. Le phénomène est en pleine accélération.
L'instant M. Sonia de Villers. Sur France Inter.
L'obliger la perche, là, tout ça?
Ça rajoute dans l'idée que tu le prennes dans tes filets.
D'accord. Tu vois, c'est tellement pas du vocabulaire de théâtre, ça, quand même. Hein. C'est ton vocabulaire à toi.
Oui.
C'est du cinéma, c'est une chose où d'un seul coup il faut l'intégrer, bon, mais je vais le faire. Pardon. Ok.
En même temps, ce qui est pas mal, c'est que ça te permet de jouer aussi un peu moins théâtre.
Tu sais qu'il va y avoir quand même un public à un moment donné, hein.
Oui, mais justement,
du théâtre.
Non,
aussi.
Ce que je veux dire, c'est que là, dans une conversation où vous êtes censé être un tout petit peu à l'écart, ça vous permet justement cette perche de baisser le niveau et de pas être obligé de projeter. Donc c'est pas que un outil de cinéma accessoire ou gadget, parce que je sens que c'est un petit peu ce que tu dis.
Ouais.
C'est aussi quelque chose qui, normalement, en jeu, doit pouvoir vous amener un peu ailleurs que ce que vous faites d'habitude.
Très bien.
Vous venez d'entendre la voix de Christophe Honoré, formidable metteur en scène de théâtre et de cinéma. Vous venez d'entendre l'extrait d'un film que j'ai adoré qui s'appelle Guermantes. Bonjour Michel Field.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du pôle culture de France Télévisions. Mais quel est donc cet objet non identifié qui s'appelle Guermantes que vous avez diffusé sur France Télévisions qui est sorti hier dans les salles de cinéma?
À toute crise, il y a un aspect positif. Et en pleine crise du Covid, on s'est retrouvé avec des comédiens qui avaient leur texte, qui voulaient jouer. Certains avaient commencé à jouer, puis des spectacles se sont arrêtés. Et avec notamment la Comédie française, mais aussi avec Jacques Weber, d'autres avec le Théâtre de l'Atelier, on a profité un peu abusivement de cette crise pour essayer de renouveler ce qui est un vieux cheval de bataille, comment renouveler les captations de théâtre.
Absolument.
Et en faire des films de théâtre.
C'est ça.
Et Christophe Honoré nous a fait un vrai bijou avec la complicité de la Comédie française. En fait,
avec Laurent Lafitte, avec Dominique Blanc. Donc
ils sont tous et ils ont joué le jeu. Donc prenons la situation, ils sont au Théâtre Marigny, ils répètent cette pièce sur Proust et ils apprennent qu'ils ne vont pas pouvoir la jouer. Qu'est-ce qui se passe? Et là, Christophe Honoré a eu cette sorte de d'intuition incroyable d'en faire, je lui ai dit en souriant, c'est comme une télé-réalité de luxe avec la Comédie française. C'est-à-dire,
c'est
il
vrai.
Fait comme, c'est le loft. Il les enferme au Théâtre Marigny, on les voit dormir ensemble, on les voit avoir tous les jalousies, le désir. Et en fait, c'est un hymne au théâtre, à la création. Qu'est-ce que ça veut dire répéter une pièce quand on va pas la jouer?
Qu'est-ce que c'est qu'une troupe?
Le rapport entre le cinéma et le théâtre. Et pour moi, c'est un des plus beaux films de Christophe. Et surtout, enfin, merci à cette troupe de la Comédie française, laquelle nous a donné aussi, avec Arnaud Desplechin, mais vous le verrez bientôt, une recréation d'Angel in America qu'ils avaient commencé à jouer, ils se sont arrêtés et là ils l'ont refait pour nous. Et Jacques Weber de son côté à l'atelier nous a fait une sorte de masterclass avec Denis Podalydès autour de la scène 1 du Misanthrope qu'on va diffuser en début d'année prochaine pour célébrer l'année Molière. On a pu grâce ou
mais
à cause du
ce
Covid.
Ce qui est absolument génial là, parce que moi je n'ai vu que le Guermantes qui vient de sortir au cinéma et que j'ai vraiment adoré, c'est un bijou d'écriture et de jeu. Ce qui est absolument génial, c'est qu'on sort totalement de la problématique du lieu, c'est-à-dire où poser la caméra, le quatrième mur, pas le quatrième mur, au milieu des acteurs ou du point de vue du public. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est le théâtre entier qui devient le décor.
Absolument.
Et ça, c'est absolument formidable.
Alors c'est vrai qu'on on galope toujours avec nos souvenirs. Ah, le Don Juan de Marcel Bluval avec Piccoli et Claude Brasseur.
Alors, c'était pas ça. Mon souvenir à moi, c'était Bergman mettant en scène La Flûte Enchantée.
Bah alors, vous avez raison.
Et,
moi aussi.
Et glissant sa caméra
dans les coulisses,
derrière les rideaux, là où les acteurs se griment avant le spectacle, se changent devant leur miroir, mais aussi ces petits enfants qui entrent progressivement dans l'opéra.
C'est drôle que vous fassiez cette référence. Moi, ça a été mon moment de bascule qui m'a fait aimer l'opéra, ce film. Donc, il m'a beaucoup touché. Je suis à la recherche de ça. Et ce qui est formidable, c'est que la crise aidant, si j'ose dire, on a eu la disponibilité des comédiens. Alors, Éric Ruff à la Comédie Française a donné son feu vert. Tous les comédiens ont joué le jeu. Et enfin, c'est très drôle parce qu'il y a beaucoup d'autodérision. On voit Laurent Lafitte, puisque c'était avant la sortie de son film, qui fait chier tous ses camarades parce qu'il veut absolument leur montrer la bande-annonce. Non, mais c'est un petit bijou. Et j'espère que c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir continuer, à savoir recréer les rapports du théâtre, de l'opéra à la télévision. Et c'est une lune de miel.
Alors, je voudrais qu'on parle du public, parce que là, il y a quelque chose d'idéal pour Christophe Honoré. Il n'y a pas de public. Je vous fais écouter un extrait du Paname Comedy Club. Toute la question, c'est comment on intègre le public à la télévision.
Il y en a qui regardent les chaînes d'infos continues un peu ici, LCI, CNews, BFM, tout ça. Waouh, ok, c'est si honteux que ça? Là, j'ai l'impression que je suis monté sur scène, je vous ai dit, il y en a qui ont des MST dans la salle? Herpès, sida, syphilis, Non, vraiment, j'ai l'impression que c'est devenu tabou, limite. Non mais mon amour, me dis pas que tu regardes encore BFM TV. Oh non, je te jure, promis, c'est un film de cul. C'est un film de cul.
Voilà, alors...
C'est autre chose, hein.
Mais
pour moi, c'est les deux pieds sur lesquels je veux marcher. Il y a Guermand, il y a la Comédie Française, et puis il y a cette ouverture à la toute jeune génération des comiques. Alors, on le fait...
Le stand-up, c'est vraiment un axe majeur de culture
boxe. Ah ben moi, je le veux, je le revendique. Parisien, avec le Paname Café autour de Kader Aoun. Vous savez, Kader Aoun, c'est une sorte de Don Corleone des comiques, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment le parrain. Ils y passent tous au Paname, et on fait des enregistrements absolument formidable. C'est aussi pour moi, j'allais dire, la carte anti-Zemmour assurée, parce que c'est la France telle qu'elle est. Ils s'appellent pas tous Clotilde et Jean-Charles, hein, ça c'est clair, mais en même temps il y a une sorte d'autodérision.
C'est vrai, on peut s'arrêter deux secondes. C'est vrai que la scène du stand-up est sans doute la scène la plus diversifiée de toutes les pratiques culturelles françaises.
Il y a trois lieux de la diversité, il y a le foot, il y a le rap et il y a le stand-up. Et c'est vrai que grâce à Culture Box, on arrive à prendre comme ça cette jeune génération qui a totalement déserté la télé, et on montre ce qu'ils font, c'est-à-dire une sorte de jubilation d'être ensemble, de se marrer de leurs différences, des différentes communautés.
C'est un manifeste politique. C'est formidable. Partout en France, avec La Relève, donc qui est le pendant dans les territoires.
Alors on le fait à Paris avec le Paname, et puis on le fait en région. On l'a fait à Saint-Etienne, on l'a fait à Lyon avec La Relève. Ouais. Là, tout à l'heure, je vais partir à Marseille. On fait à nouveau rire sur les toits. Et mon idée, c'est aussi, puisqu'on est le groupe public où on a des premières dans les territoires d'outre-mer, d'arriver à rendre public ce qu'est l'humour dans les régions,
Alors,
ce qu'est l'humour dans les territoires d'outre-mer.
Alors ça fait très longtemps, Michel Field, qu'il y a cette alliance entre la scène du stand-up et la télévision, le Jamel Comedy Club, qui était à la fois une émission de télévision et en même temps un théâtre. Et ça fait longtemps qu'on se pose cette question, c'est-à-dire que le stand-up, le public, le rapport au public est quelque chose d'absolument central dans le travail de l'acteur. Il ne peut pas jouer sans public et sans cette interaction. Du coup, comment on fait avec la caméra? On voit bien qu'avec le Paname Comedy Club, vous filmez plus bas, vous cherchez...
Ben c'est clair, les caméras, elles sont au milieu du public et elles se font le plus discret possible pour être en moins d'interférences possible. Et très franchement, les mômes qui sont sur scène, ils oublient les caméras parce que c'est le rire du public qui
leur importe. Ils oublient vraiment les caméras?
Ah, je crois, vraiment. Regardez-les, ils sont quand même beaucoup plus attentifs aux réactions, aux rires qu'ils arrivent à susciter ou pas d'ailleurs. Et quelquefois, ils le mettent en scène. C'est un laboratoire extraordinaire à la fois pour eux et pour nous. C'est-à-dire que nous, ça nous oblige à avoir des idées d'axes un peu nouveaux. Et la petite équipe de prod, parce qu'en plus, on filme dans des lieux très confinés, il faut garder cette proximité-là. Et avec tout le code sanitaire, évidemment, on est très attentif à ça. On est dans un laboratoire, et ce qui est formidable avec Culture Box, c'est que ça nous permet de faire ce laboratoire.
Alors, est-ce que la scène vient à la télévision? Est-ce que la télévision va à la scène? Je trouve que c'est aussi les questions
que pose The Artist, le prime de Nagui, qui n'a pas marché sur France Télévisions, c'est pas qu'il y ait pas mis du cœur, mais alors un cœur énorme. Et puis ça n'a pas marché.
Mais au moins j'aurais essayé, a-t-il dit, et je trouve que c'est magnifique. Arrêtons de stigmatiser. Il y a quelquefois des échecs qui sont extrêmement productifs, et moi je trouve que c'est.
Et qui posent des très bonnes questions. Ouais, on écoute exactement. Nicolas, nous c'est un des artistes qu'on a préféré.
Je sais rien faire, c'est magnifique. Sont tous là, ils me félicitent. C'est magnifique, c'est magnifique. Je sais pas faire des sons joyeux, même quand je serai riche, je serai un pauvre. Je ferai jamais avancer le monde, même s'ils me sucent tous en cœur.
Je trouve que ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit bien, c'est que Nagui a échoué à en faire un produit télé. C'est-à-dire qu'en fait, il en a fait un super spectacle, mais là où ça n'a pas marché, c'est qu'il n'a pas réussi à en faire un produit de télévision. Et c'est là que ça pose toutes les questions entre la différence entre la captation d'un spectacle, où il faut bien que la télévision s'oublie un peu et arrête d'imposer ses codes à la scène, parce que quand on fait une captation, comme vous en proposez Michel Field sur Culture Box, et ben il y a un moment, il n'y a plus de présentateur, il n'y a plus de voix off, il n'y a plus tous les codes de la télévision.
Bien sûr, mais...
Alors que le télécrochet, c'est l'inverse. Oui, mais c'est la scène qui entre dans les codes de la télévision.
Le privilège que j'ai, c'est que je suis pas en prime time sur France 2, et que du coup, ce côté laboratoire, j'ai le droit de le faire. Pour l'instant, on ne mesure pas l'audience de Culture Box, parce qu'on sait très bien que quelquefois, on va s'adresser à des niches, mais on est service public. Mmh. Donc, le privilège de cet outil, c'est qu'en effet, on s'affranchit de ce besoin de faire, de réunir 3-4 millions de personnes.
Mais pas seulement, et c'est de faire de la télé, c'est-à-dire que des spectacles que vous proposez, vous n'essayez pas de faire des émissions de télé.
Ah non, au contraire, on essaye de les retrouver dans leur pureté de spectacle, au plus près de l'acte de création, et c'est d'ailleurs, pour en revenir à Guermantes, la magie de ce film, c'est qu'on est au plus près, c'est comme si on était les spectateurs invités au cœur du processus créatif, et ça c'est quelque chose d'assez rare à la télévision.
Alors je vous fais écouter Travis Scott, qui est un sacré rappeur, qui a un succès phénoménal, et là je trouve qu'il y a un nouveau phénomène qui pose encore plus de questions, c'est des grands artistes pop qui viennent se produire à l'intérieur d'un jeu vidéo. Écoutez ce que ça donne avec Travis Scott. Il faut imaginer que tous les spectateurs sont représentés par des avatars. Et il faut imaginer que le chanteur lui-même est un avatar au milieu de Fortnite, un des jeux vidéo les plus populaires qui soit auprès des très jeunes. Alors il y a eu Travis Scott qui s'est produit dans Fortnite, il y a Aya Nakamura qui va bientôt faire un concert dans Fortnite, il y a un autre artiste très très en vogue qui s'appelle Lil Nas X qui vient de se produire dans Roblox, et là c'est un changement complet de paradigme, parce que c'est quand même du spectacle vivant, complètement dématérialisé. Le public est dématérialisé, l'artiste est dématérialisé, et pourtant on vit une expérience unique et en direct.
Alors il y a ça, et puis il y a ce qu'on a fait cet été à Orange, dans le théâtre antique d'Orange, donc vous voyez ce truc romain avec la statue d'Auguste, il y a eu ce qu'on a appelé la symphonie des jeux vidéo, c'est-à-dire un orchestre symphonique qui a repris tous les thèmes musicaux des grands jeux vidéo avec projection de jeux vidéo sur les enceintes romaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est aussi dans un moment de création où les frontières entre les arts tombent et où
entre la culture populaire.
Oui, parce que, si vous voulez, des musiciens d'un orchestre symphonique, ils ont pour certains 30 ou 35 ans, c'est-à-dire quand ils rentrent chez eux, ils écoutent du rap, ils jouent aux jeux vidéo, et cet alliant, moi c'est le combat que je mène depuis quasiment 25 ans avec le Cercle de Minuit, où j'essayais de mêler, et à l'époque c'était dur, des cuisiniers, des peintres, des écrivains. À un moment donné, il faut faire tomber ces frontières-là, et en ce moment elles tombent. Regardez le hip-hop symphonique avec Issam Krimi que vous faites à Radio France. Issam, il est ce soir sur nos antennes Culture Box avec un quatuor de cordes et des rappeurs. C'est-à-dire, ce mélange-là, c'est aujourd'hui la pulsation même du créatif. Et moi, je suis très heureux et très fier que Culture Box puisse accompagner ça.
Je me suis demandé si tout ça, une fois que c'est sur la plateforme, donc la plateforme, c'est comme une sorte de grosse bibliothèque, de gros catalogue. Absolument. On pioche ce qu'on veut, et en effet, on se retrouve avec des vieux concerts captés par l'INA, ou des belles représentations théâtrales captées par Lina, et puis des choses très très récentes. Et je me suis demandé si tout ça donnait pas, si tout ça, comment dire, mécaniquement ne refroidissait pas. C'est comme si on fabrique du stock, comme si on perdait la force du spectacle Hic et Nunc, c'est-à-dire je vous parle à vous aujourd'hui, tel jour de septembre 2021, il s'est passé ça hier, il va se passer ça ce soir, vous êtes de telle humeur, moi aussi. On perd ça, on perd ce qu'il y a.
Alors,
de chaud.
On le perd, mais parce que les usages changent aussi. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne refusez pas un dîner chez des copains parce que vous voulez voir un truc à la télé. Vous savez très bien que vous le verrez le lendemain en replay ou la semaine d'après. Donc, c'est sûr qu'il faut garder à la fois, et ça continue à être la magie du direct à la télévision, le côté événementiel, mais en même temps, ce côté catalogue, il répond aussi aux usages où les gens viennent picorer ce qu'ils veulent, à l'heure qu'ils veulent, le jour qu'ils veulent. Il faut tenir les deux
au
bouts de la chaîne.
Au risque de refroidir, au risque de fabriquer du stock et du froid. Je dis ça parce que la culture est une espèce de champ de bataille, de foutoir idéologique, où ça s'engueule, ça s'attaque, ça se dénonce, ça règle des comptes dans tous les sens.
Ah bon, ça c'est chez vous, pas chez nous.
Alors, pas eu. Non mais c'est vrai que la culture est devenue un terrain de bataille très très
mais
politique.
Il l'a toujours été, et je pense pas que ce soit le froid ce qu'on propose. C'est juste qu'à un moment donné, les gens peuvent constituer eux-mêmes, comme avant ils pouvaient constituer leur bibliothèque idéale, ben là ils composent leur culture idéale. Et on serait étonné de voir qu'il y a des gens assez âgés qui découvrent le rap le plus pointu sur justement sur Culture Box, l'émission quotidienne Bâtiment B avec Oxmo Puccino, ouais, qui invite tous ses copains rappeurs, les Youssoupha, etc. C'est extrêmement intéressant comme trait d'union entre les générations. Et puis, il y a cette émission d'accueil de Culture Box avec Daphné Burki et Raphaël que vous avez invité à votre émission. Et là, ce qui est incroyable, c'est que depuis que Culture Box existe avec cette émission, mais toute la jeune scène est vient, il n'y a pas un artiste qui refuse, des artistes confirmés et des révélations, mais pas seulement dans le rap, les jeunes concertistes classiques viennent aussi pouvoir s'exprimer. Et ça, que Culture Box soit le lieu de où en
c'est
fait les talents émergents sont chez eux,
ouais,
c'est magnifique.
Sur le stand-up, c'est-à-dire que le stand-up a pris une place immense dans le paysage médiatique. Les stand-uppers sont invités, les stand-uppers présentent les grandes cérémonies, les stand-uppers deviennent chroniqueurs dans les émissions. Mais au fond, un espace où on questionne cet art-là, il y en a pas.
Il y en a pas. Oui, mais parce que ça pique. Il y a plein d'aspérités.
Sans blague.
Moi, j'ai des petites tensions avec le service juridique de France Télévisions. Qui dit, mais ce sketch-là qui met en cause telle personnalité de façon. Et en effet, faut y aller. C'est-à-dire, on va pas commencer à jouer des ciseaux. Faut accepter ça. Faut accepter la transgression. Faut accepter le mauvais goût. Moi, il y a quelquefois des sketchs qui ne m'ont pas du tout fait rire et que j'ai trouvé quand même, ou vulgaire. Mais peu importe mon goût. L'important, c'est de donner
ça
brut. Voilà.
C'est la phrase du jour. Michel Phil, directeur du pôle culture de France Télévisions. Il faut accepter le mauvais goût. Merci beaucoup.
Mais le bon goût aussi.
Michel Phil. Et je voulais vous en parler, mais on n'a pas eu le temps ce matin. Paris et moi, c'est ce petit livre où vous vous racontez beaucoup, vous vous dévoilez beaucoup de choses de vous à travers une balade parisienne, une balade historique et géographique dans Paris, où vous racontez notamment comment les médias se sont installés tout près des lieux de pouvoir politique. On en reparlera la prochaine fois.
Ah bah volontiers.
Que vous serez mon invité. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebbi.
Bonjour Sonia De Villers. Et bien ce matin, comment devient-on raciste? Une émission en compagnie d'une professeure en anthropologie génétique,
c'est génial,
d'une historienne sociologue et avec un psychologue social. Comment devient-on raciste? Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000.
Parce que
je m'étais
moi jamais posé la question du devenir.
Du devenir, effectivement. C'est très passionnant.
Bon ben on vous écoute. Allez, salut.